Radio Okapi. Journal présenté par Jacques-Yves Molima.
Les professeurs d'université durcissent le temps. Ils ont élargi de 21 jours leur mouvement de grève en le rendant sec sur toute l'étendue nationale. Et pour cause, le manque criant d'unité de vision et d'action de la part du gouvernement. Et puis cette recommandation du chef de groupement des Rougaris au Nord Kivu, au FRDC engagé dans l'opération contre l'M23, Mwami Eric Machagiro recommande l'intensification de la collaboration FRDC-population et l'éradication de tous les groupes armés. Enfin, nous recevons dans cette édition du journal le docteur Jean-Paul Birengambi, directeur de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mama Yemo. Comme nous l'avons promis hier, il répond aux allégations contenues dans les rapports présentés la semaine dernière par Filimbi en collaboration avec l'Observatoire de la dépense publique, ODEP. Voilà tout pour le sommaire. Bonjour mesdames, bonjour mademoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Les professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo durcissent leur grève sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À l'issue de leur assemblée générale tenue mercredi 26 janvier ici à Kinshasa, ils indiquent que la grève devient générale et sèche et qu'elle est rallongée de 21 jours. Ils ont fait cette annonce après avoir constaté, selon eux, un manque criant d'unité, de vision et d'action au niveau du gouvernement de la République qui a fait du communiqué du 3 janvier une lettre morte, peut-on lire dans leur communiqué. D'autres détails avec Philibert Balolagué.
Le réseau des associations des professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo, RAPICO, dit constater également que le gouvernement de la République n'a pas assez de considération envers les professeurs des universités. Ils sont victimes de leur propre loyauté et de leur patience, lit-on dans ses communiqués. Le RAPICO exige du gouvernement de la République la réalisation sans délai de la totalité de son cahier des charges, déposé en bonne et due forme auprès des instances compétentes. Il met aussi en demeure les comités de gestion de cesser d'inviter les professeurs à reprendre les enseignements sous peine de poursuites pénales pour atteinte aux droits garantis aux particuliers. Toutefois, le RAPICO dit rester ouvert aux négociations, conclut les communiqués. Pour rappel, les professeurs des universités et instituts supérieurs sont en grève depuis le 5 janvier 2022, date de la rentrée de la nouvelle année académique. Ils réclament l'amélioration des conditions salariales.
Pendant ce temps, sur le terrain au sud Kivu, crise à l'Institut supérieur de développement rural ISDR Bukavu. Tous les membres du comité de gestion n'ont pas accès à leurs bureaux respectifs. Les installations sont scellées par les agents administratifs qui réclament le paiement de 4 mois de primes. Le directeur général de cette institution appelle à l'intervention du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Le point avec Emmanuel Elamejou Akabedi.
La crise qui secoue l'ISDR Bukavu dure depuis plus de 2 ans maintenant. Les agents administratifs ont scellé tous les bureaux des membres du comité de gestion de l'ISDR Bukavu. Azoni Mango Kimengele, président de la délégation syndicale.
C'est depuis 3 ans que nous vivons toujours dans un conflit qui continue suite au non-paiement parce que...
Vous êtes allé jusqu'à aller souder toutes les portes.
C'est une révolution. Les gens se sont révoltés. Ils ont fait ça. La remise de l'ordre sera conditionnée par le paiement de ces 4 mois et demi.
Le directeur général de l'ISDR Bukavu parle des intentions cachées de ses agents administratifs. Le professeur Bosco Muchukiwa, qui dit reconnaître les arriérés de primes de 4 mois et demi, appelle l'intervention du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire afin de mettre fin définitivement à cette crise.
Nous reconnaissons que nous devons 4 mois et demi et nous avons déjà commencé à payer parce que ces retards-là, il y a une situation de 920. Moi, je considère, si les gens ne veulent pas comprendre cela, c'est qu'ils sont manipulés. Je demande que le ministre, son excellence, Mouindo Zang, envoie une commission pour faire des enquêtes pour que les responsabilités soient établies.
Emmanuel Elamejou Akabedi, Bukavu Radio Okapi.
Nous l'avons dit au sommaire, mesdames et messieurs, au Nord Kivu, le chef de groupement des Rougaris recommande à l'armée d'intensifier sa collaboration avec la population et d'éradiquer tous les groupes armés dans cette zone. Mwami Eric Machagiro réagissait ainsi hier mercredi à la suite de l'offensive enclenchée par les FARDC à partir des Rougaris Centre contre les présumés rebelles du M23 qui ont attaqué ces derniers jours les positions de Nyesisi et Ngougo à 13 km au nord-est de Rougaris. On écoute Mwami comme Eric Machagiro au micro de Denise Loukesso.
La première recommandation, c'est la collaboration entre l'armée et la population. Sans ces mariages civilo-militaires, on ne peut pas arriver aux objectifs escomptés. Parce que l'armée a besoin de cette collaboration avec la population, mais la population aussi a besoin de l'armée pour la sécuriser. Et donc ce mariage-là, nous les voulons, et que ce mariage soit permanent. Ça c'est de deux. Nous voulons que cette question soit prise en charge sérieusement. Que même les autorités, qu'elles soient de la province, qu'elles soient nationales, qu'elles prennent en charge cette question, parce que ce n'est pas une question des enfants, c'est une question qui commence à avoir une ampleur négative et qui risque de nous coûter très cher au cas où les décisions farouches ne sont pas prises pour éradiquer tout ce qui est groupes armés, tout ce qui est insécurité dans notre zone.
Notez que, toujours en territoire de Rutshuru, des dizaines de ménages d'au moins 7 villages du groupement Kisigari fouillent les attaques et affrontements entre les FARDC et les présumés rebelles du M23 dans leur village et arrivent à Rugari Centre. Les déplacements massifs qui ont commencé mardi se sont poursuivis hier mercredi. Ils arrivent en masse à Rugari Centre, à 15 km au nord-ouest de leur village. Ils sont hébergés dans des familles d'accueil et dans la paroisse catholique de Rugari. Et puis, rapatriement volontaire des réfugiés burundais vers leur pays d'origine, le Burundi, à travers le directeur général de rapatriement, réinsertion et réinstallation, lance l'appel à tous les réfugiés burundais se trouvant dans les pays voisins de regagner leur pays. Nestor Bimenyimana a lancé cet appel ce mercredi à la frontière de Gatumba. C'était à l'occasion de l'accueil de 269 réfugiés burundais rapatriés ce jour par le HCR. Ces réfugiés avaient fui les hostilités de 2015 au Burundi avant de se réfugier en RDC. Ils sont encore plus de 30 000 hébergés par le HCR dans les camps de Lusenda et Mulungwe en territoire de Fizi au sud Kivu. On écoute Nestor Bimenyimana au micro de Fiston Ngoma.
C'est un honneur pour le Burundi, c'est un honneur pour le gouvernement et c'est un honneur pour les familles qui vont accueillir bientôt les leurs dans les ménages respectifs. Toutes les dispositions sont en place, le gouvernement s'est préparé. La première préoccupation des réfugiés était vraiment de rentrer dans leur pays natal. Aujourd'hui, c'est une satisfaction pour nous. Les Burundais qui sont toujours dans les camps des réfugiés au niveau de la RDC sont régis aux droits et aux devoirs de la République démocratique du Congo. La RDC, c'est un pays souverain. Le Burundi, c'est un pays souverain. Là, je ne peux pas me mêler dans les affaires d'un autre pays qui est souverain. C'est juste pour nous associer à son Excellence le Président de la République du Burundi qui lance toujours un appel aux réfugiés de rentrer en masse. Faisons un appel vraiment très vibrant aux réfugiés burundais qui se trouvent et au Congo et dans d'autres pays de regagner les autres Burundais pour pouvoir se développer ensemble. Nous ne voulons pas laisser personne en arrière.
Autre nouvelle, dans la province de la Tchopo, le directeur général de la société textile de Kisangani, Soteski, lance un cri de détresse aux personnes de bonne volonté afin de contribuer à débloquer la situation de son entreprise dont le nouvel équipement continue à traîner dans les entrepôts. 14 mois après sa réception à Kisangani, le professeur Glober Loco a lancé cet appel hier mercredi à l'occasion de la visite effectuée dans cette entreprise par les députés nationaux Faustin Toegao Lukundo. Au vu de ces nouvelles machines acquises sur fonds propres, le lit de la Tchopo s'est dit choqué de les voir humer la poussière dans des entrepôts au risque de s'abîmer. Jacques Moukokole.
Ce nouvel équipement moderne de la Sotexki n'est toujours pas retiré des entrepôts, déplore le DG de cette entreprise. Le professeur Glomber Loco précise qu'un problème de procédure administrative en serait la cause, alors que la DG de la DGDA avait déjà instruit sa direction provinciale afin de débloquer cette situation.
Bientôt là, nous entrons dans les 14e mois. Depuis l'arrivée de ce métier, nous ne saurons pas les mettre en production, nous ne saurons pas non plus les exploiter. Sollicitons donc la contribution de tout le monde pour nous permettre de vite implanter ces machines et de les mettre en exploitation.
Une fois installé, cet équipement moderne acquis sur fonds propres pour un montant d'$1 million permettra à la Sotexki de relancer la production, tous les autres avantages que cela implique. Le professeur Faustin Toengao, élu de la Djopo, dénonce ce qu'il qualifie de mauvaise foi de certains. certains responsables étatiques.
La société bénéficie des mesures d'exonération par un arrêté interministériel qui n'a jamais été abrogé. Et la société est allée même jusqu'à saisir le Conseil d'État qui s'est prononcé en faveur de la Sotexki. Mais une décision du Conseil d'État n'est pas appliquée à la suite tout simplement de la mauvaise foi de certaines personnes.
Faustin Toengao promet de mobiliser les caucus des députés nationaux de la Tchopo afin de chercher par tous les moyens à faire débloquer rapidement la situation. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Et puis cette nouvelle, il y a carence de pommes de terre sur le marché de Butembo depuis les débuts de cette semaine. Le prix moyen d'un sac de pommes de terre est passé de 70 à 85 000 francs congolais. Dans le territoire de Lubero, d'où provient cette denrée, Florida Kaambu, l'on parle de diminution de la production à cause des perturbations climatiques.
Ce mercredi, plusieurs entrepôts de pommes de terre sont presque vides. Conséquence, selon Katembo Kasai, président de la coopérative des dépositaires des produits vivriers, Odeprovi, un sac de pommes de terre de 110 kg du type Cruza se vend à 85 000 francs contre 70 000 la semaine passée. Pour d'autres qualités de pommes de terre dont les sacs se vendaient à 85 000 francs, le prix est passé ce mercredi à 95 000 francs. Katembo Kasai souligne que Butembo, qui recevait au moins 100 tonnes de pommes de terre par jour de la zone maraîchère, n'en reçoit aujourd'hui que 70, soit un déficit de 30 tonnes. D'où cette difficulté.
Par rapport à la semaine passée, au lieu d'avoir 10 camions, mais aujourd'hui nous venons d'enregistrer seulement 7. Normalement, un camion s'est calculé à 10 tonnes. Et si on fait le calcul à 10 camions, nous avons directement 100 tonnes. Et avec 7 camions, nous avons directement 70 tonnes. Il y a directement diminution de 30 tonnes.
D'après Jean-Marie Moulekia, chargé de programme au sein du syndicat de défense des intérêts paysans, SIDIP, une organisation qui encadre les producteurs de pommes de terre dans les Loubéros, cette diminution de production est due aux perturbations climatiques qui ont entraîné de fortes pluies lors du semis. Butembo, Florida Kaambu, Radio Kapi.
Et puis, bonne nouvelle pour la province du Kassai Oriental. 58 sites de vaccination contre la COVID-19 viennent d'être ouverts cette semaine dans la province. Désormais, le Kassai Oriental compte 60 sites de vaccination répartis dans 14 zones de santé sur les 19 que compte la province. Selon le chef de division provinciale de la santé, 4 types de vaccins sont déjà disponibles dans les sites de vaccination pour toute personne à partir de 18 ans. Il s'agit notamment de Johnson & Johnson, Novak, Pfizer et Moderna. Docteur Bonheur Chitekou signale par ailleurs que certaines difficultés liées à la transmission des données dans le logiciel suite au manque de téléphones appropriés à cette tâche. Docteur Bonheur Chitekou, chef de division provinciale de la santé, a été joint au téléphone par Esther Ndalafina.
Vu qu'il y a l'engouement aujourd'hui, nous sommes passés de 2 sites à 60 sites. Nous avons ajouté 58 sites pour le mode de routine. Il y a les 10 zones de santé urbaine qui vont organiser la vaccination en mode routine, plus 4 zones de santé du milieu rural. Nous avons reçu 4 types de vaccins. Dans un premier temps, on a eu Johnson & Johnson, Sinovac, Moderna et aussi de Pfizer. À côté de ça, nous avons eu d'autres doses de Johnson & Johnson qui est administrée en dose unique. Bientôt là, nous allons organiser le mode campagne qui va durer 14 jours et le lancement est prévu pour le 31 de ce mois, donc le lundi prochain. On s'attend à vacciner 255 946 personnes. À cela, nous ajoutons certaines difficultés. Nous n'avons pas des téléphones qui peuvent aider nos data managers qui ont déjà bénéficié de cette formation pour arriver à encoder nos données.
Et puis, plus d'1,660 milliard de dollars américains seront débloqués par l'État congolais pour booster le développement de 145 territoires dans le but de réduire rapidement la pauvreté et les inégalités sociales en RDC. Chaque territoire doit bénéficier en moyenne de 10 millions de dollars. Ainsi, les 26 provinces pourront être regroupées en 2 ou 3 espaces géographiques qui seront confiés à 2 ou 3 agences d'exécution, dont notamment le PNUD, le BESECO ainsi que la cellule de financement en faveur des États fragiles, mobilisés en fonction de leur expertise. Le point avec Esther Ndalafina.
Le financement de ce programme est réparti respectivement sur 3 exercices budgétaires à hauteur de 300 millions de dollars pour 2021, 700 millions pour 2022 et 660 millions de dollars pour 2023. Selon le principe d'équité territoriale, chaque territoire bénéficiera d'un paquet d'investissements prioritaires évalué en moyenne 10 millions de dollars. D'après le Premier ministre, l'apport des partenaires au développement sera également sollicité pour accélérer la mise en œuvre de ce programme. Le ministre d'État en charge du plan a indiqué que le gouvernement avait mis en place une task force des experts multisectoriels appuyée par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD pour le diagnostic, la collecte, la priorisation ainsi que la hiérarchisation des besoins exprimés par les forces vives dans les 145 territoires avant l'élaboration de ce programme. Quant à l'utilisation des fonds, le ministre des Finances ouvrira des comptes spéciaux dans des banques commerciales de la place en faveur de ces trois agences. Les fonds seront virés conformément au plan de décaissement approuvé par le comité de pilotage stratégique, peut-on lire dans les documents consacrant le plan de développement local des 145 territoires.
Actualité internationale.
Réuni hier mercredi 26 janvier à Ouagadougou, le bureau politique du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP, parti politique de Kaboré, dénonce une remise en cause complète de toutes les dispositions institutionnelles de la République et de la démocratie farouchement acquises. Le parti lance un appel à tous ses militants et sympathisants, à tous les démocrates pour la recherche d'une solution à la situation que traverse le Burkina Faso.
L'invité.
Notre invité compromis, c'est le docteur Jean-Paul Birengambi, directeur de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo. Il répond aux allégations contenues dans le rapport présenté la semaine dernière par Filimbi en collaboration avec l'ODEP. Docteur Jean-Paul Birengambi s'entretient avec Philibert Balolagué. Suivez.
Docteur Birengambi Jean-Paul, bonjour.
Vous avez lu avec nous les rapports sortis par Filimbi au sujet de l'utilisation des fonds Covid alloués par les gouvernements au sein de votre hôpital. Et dans ces rapports, il est dit que vous n'arrivez pas à justifier plus de 600 000 dollars. Quelle est votre réaction à ce sujet?
Bien, merci. Je crois que pour chaque travail scientifique, pour chaque rapport, le grand titre doit situer déjà les lecteurs dans le temps et dans l'espace. À lire les grands titres, dès lors que on ne précise pas à quel moment les financements ont été donnés et ont été gérés, ça peut désorienter l'opinion des uns et des autres. Quand vous me posez cette question-là, je peux dire que les fonds qui ont été alloués à l'hôpital général ont été donnés bien avant notre arrivée. Et pour vous rafraîchir la mémoire, l'hôpital Mamayemo, depuis l'avènement de Covid-19, a connu trois comités qui ont chevauché. Et de ces trois comités, moi, je suis le troisième comité depuis l'avènement de Covid. C'est facile pour tout ce qui s'est dit dans la presse, dans le grand titre du rapport, c'est facile qu'on puisse attribuer ces allégations-là au comité dirigé par Dr Divengi que je suis. Là, c'est l'observation clé. Les autres observations sont à l'examen et on va répondre. Du moins, je peux préciser l'opinion des uns et des autres que le contrôle citoyen ou l'observatoire tel que le travail est fait, vous savez, le contrôle citoyen, c'est fait dans tous les pays, c'est universel. Notre pays ne doit pas échapper à ça. Et donc, c'est tout à fait normal que Filimbi, ODEP, et nous tous, tous les gestionnaires du pays doivent faciliter la tâche à ces gens-là de faire leur travail, à ces organisations de faire leur travail.
Vous venez de nous donner ces explications, mais il y a des gens qui ont déjà entendu ce genre de paroles, qui se disent, mais est-ce que l'hôpital arrivera à justifier cet argent ou l'hôpital n'arrivera pas à justifier ça?
Je pense que chaque comité de gestion répond à sa gestion. Et la gestion qui n'est pas la mienne, je ne peux pas répondre à ça. Mais au nom de la continuité de l'administration, nous nous sommes fait les devoirs. Moi, je suis un de médecins directeurs qui ne s'est pas précipité à destituer les gens de leurs fonctions. La plupart des gens qui ont travaillé, ils sont en fonction. Et c'est ce qui a facilité justement la tâche au contrôle depuis le début. S'il y a eu des archives, c'est parce que quelque part, il y a eu un travail qui a été fait pour ramasser les archives, mais les archives qui n'étaient pas disponibles. Vous connaissez l'histoire dans ces pays qui ne connaît pas que durant le 3-4 premiers mois d'exercice de mon pouvoir comme médecin directeur de l'hôpital, c'était un vacarme de bruit, c'était un théâtre des intrusions de tout genre. Et donc, ce sont des choses qui sont de nature à déranger un peu. Mais toutefois, nous disons que le travail qu'ils ont fait, c'est question seulement de passer à une relecture pour situer la responsabilité du comité de gestion. Donc, moi, je ne suis pas en train de faire un travail pour juger mes prédécesseurs, mais néanmoins, dans ces rapports, vous voyez la partie qui concerne ma gestion. Et pour votre information, tous ces fonds ont été attribués à l'hôpital avant l'arrivée de notre comité de gestion. Il y a d'autres éléments et je crois que ça nécessite qu'on puisse le rendre à Filimbi et à ODEP qui ont produit ces rapports. C'est des échanges entre eux et nous pour éclairer certains points qui sont, à notre avis, pas corrects. Et donc, nous allons faire ce travail. Et là, je reprends ce que j'ai dit avant, que le contrôle citoyen doit être accepté par tout le monde. Les rendus des résultats doivent être précis, conçus et situés correctement dans le temps et dans l'espace, de manière à ce que l'opinion publique ne soit pas désorientée.
Docteur Birengambi Jean-Paul, je vous remercie.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.